Le lundi, dans la deuxième partie de l'EM, on invite une deuxième structure, association, collectivité, entreprise. Là, c'est une association, encore jeune, mais déjà très dynamique. C'est Timobs. Bzz. Pour le BZH à la fin, bien sûr.
Parfait.
Son objet, c'est d'aider les projets pour développer des mobilités plus écologiques que la voiture individuelle avec une seule personne dedans. Parce que développer des projets, parfois, ça demande des connaissances en droit, en technique, en sociologie, voire en psychologie. Dans Timobs, il y a aussi des scientifiques, des spécialistes qui peuvent aider. Et il y a la coordinatrice Cali Abraham qui est avec nous. Bonjour Cali.
Bonjour.
Et elle vient nous parler aujourd'hui d'autopartage.
Tout à fait.
Alors, on va peut-être rappeler pour commencer ce qu'est l'autopartage.
Oui, tout à fait. Alors déjà, merci pour cette invitation. L'autopartage souvent suscite des questions hein, parce qu'on ne voit pas toujours très bien la différence avec le covoiturage, par exemple. Et l'autopartage, la différence, c'est de prêter sa voiture avec des amis, de la famille ou des voisins pour un trajet ou un usage particulier. Là où un covoiturage, c'est de partager son véhicule avec plusieurs personnes qui vont faire le trajet ensemble. Voilà. Donc là, la différence, c'est que l'autopartage, c'est juste le prêt du véhicule.
On n'est pas dans la voiture, quoi. C'est ça. Contrairement au covoiturage, où on est dans la voiture.
Exactement. Mmh. Voilà.
Et ça existe quand même depuis un certain temps, je crois, l'autopartage. Enfin, il y a eu des expériences qui ont été tentées un peu partout, même des expériences pas, on va dire avec de l'argent à la clé. Est-ce qu'on pourrait avoir des exemples d'autopartage?
Eh ben, l'autopartage, ça existe depuis longtemps sans vraiment avoir utilisé ce nom et c'était plutôt informel. On n'avait pas vraiment d'outils, c'était très modulable en fonction de chacun, chacune. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs types d'autopartage, ou en tout cas, il y a plusieurs services qui se disent de l'autopartage. On a par exemple l'autopartage en flotte, vous connaissez peut-être Cities à Rennes, où il y a des places de parking qui sont réservées à Cities. Et là, c'est des entreprises qui mettent à disposition des véhicules en location pour une courte durée.
Il y a eu Autolib, par exemple.
Oui,
aussi.
C'est ça, tout à fait. Et on a encore un autre type qui est de la location entre particuliers. En tout cas, c'est comme ça qu'on essaye de nommer pour différencier ces différents acteurs. Un peu comme Turo ou Getaround, qu'on trouve à Brest, par exemple. Et eux, c'est de la location sur des plateformes en ligne où des personnes décident de mettre en location leur véhicule pour un usage.
Ah oui, donc c'est quand même des particuliers qui mettent leur voiture, la voiture dont ils ne servent pas, en gros,
c'est ça.
Sur le site.
Oui.
Et on doit louer aux particuliers en passant par la plateforme.
Exactement. Sauf qu'en général, c'est quand même une assez grosse business, ce genre de choses. Et c'est vraiment des personnes qui essayent de le faire, oui, pour la cause, mais aussi pour faire un revenu. Là où l'autopartage entre particuliers, ce qu'on fait nous chez Timobs, c'est pas du tout pour s'enrichir. Au contraire, c'est vraiment pour pouvoir partager. Alors c'est sûr que c'est économique, hein. On partage les frais, on va en parler peut-être juste après.
Tout à fait,
mais c'est vraiment plus pour partager son automobile, partager les frais, et créer un lien avec son entourage.
Et dans l'autopartage justement plus collaboratif ou plus partageur, et qu'est-ce qu'il y a comme exemple de structure, parce que je crois même qu'il y a des collectivités,
oui.
Je crois au JUC, il me semble, qui est une voiture municipale qui est mise à disposition, je sais pas. Fin...
Alors il existe par exemple, nous dans notre région, au Pays de Brest, plusieurs associations qui s'occupent de faire de l'autopartage, ou en tout cas qui proposent. On a par exemple les partageurs à Brest, on a les éco-partageurs au Relais Kérion, où on a aussi l'association Carambole. Et eux, effectivement, s'intéressent et proposent de l'autopartage en proposant leur propre modèle. Puisqu'on pourra peut-être aussi en discuter, mais il y a tout un côté assurantiel qui peut poser problème quand on veut se lancer. Et en fait, une des solutions possibles, c'est de se mettre en association pour avoir une assurance associative pour le véhicule. Et à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile de partager sa voiture. Et c'est pour ça que ces groupes-là, les partageurs, les éco-partageurs et les caramboles, sont là et existent. C'est pour pouvoir bénéficier de cette assurance et pouvoir prêter les voitures aux personnes.
C'est plutôt vers eux qu'on va se tourner, d'ailleurs. Alors, juste avant, je voudrais qu'on écoute un extrait d'un groupe de paroles, si on veut. Enfin, ça s'appelle la fresque des possibles. C'est l'association Le Lieu Dit à Brest, qui est une association d'associations. D'ailleurs, les partageurs en font partie, je crois. Ils proposent régulièrement des sessions de formation, des fresques. Alors, il y a différents thèmes. Il y a une fresque des mobilités, notamment. Et l'extrait qu'on va écouter, il est question justement d'autopartage, donc des personnes qui ont testé ou qui voudraient tester et qui racontent.
L'autopartage, c'est quelque chose qui va bien pour pas mal de choses.
Et souvent, on a tous un mode de vie hyper individuel, on a plein d'outils personnels. On a une scie circulaire, par exemple, on va l'utiliser une fois par an. Et on l'a payé 200 balles, etc.
Si tu connais un peu le principe, tu peux nous expliquer comment marche l'autopartage ou pas ?
Il y a un étudiant avec qui je bossais, qui l'a fait. Et ils ont acheté une vieille voiture de plus de 5 ans. Hein, je veux dire. Et parce qu'ils étaient plusieurs étudiants en fait, à venir des quatre coins de la France sur Brest. Et ils sont restés, ils étaient sur une période à peu près équivalente. Ils ont acheté une voiture pour 2000 euros. Quoi. Là, ils ont pris une assurance ensemble. Ils ont eu un peu de mal à l'assurer parce qu'on pouvait mettre clairement sur l'assurance. Il y en a un qui savait qu'il allait le plus longtemps dans son contrat. Il l'a prise. La voiture, il y en a un qui est reparti avec à la fin. Il a racheté les parts à ses collègues. Et sachant qu'entre les deux, il y en a deux qui avaient revendu leur part de la voiture à la fin de leur contrat ici. Quoi.
Alors le mieux, c'est pas de le mettre à un nom. C'est de le mettre au nom d'une association. En fait, le principe de l'autopartage, c'est de créer une asso. Pour éviter justement que ce soit un nom, parce que sinon, effectivement, bah, c'est son malus qui prend quand il y a un accident, etc. Donc,
Voilà, donc ça, c'est un extrait de cette fresque des possibles se déplacer proposée par le lieu-dit. Le lieu-dit, c'est à Brest. Hein, vous pouvez aller sur leur site internet pour savoir tout ce qu'ils font. Et nous, on est en compagnie de Kelly Avraham, qui est coordinatrice de l'association T-Mobs, dont le but, c'est justement de promouvoir les mobilités douces, c'est ça ? Enfin, les mobilités sobres.
Exactement.
On peut dire ça comme ça. Justement, alors, est-ce qu'on pourrait récapituler les intérêts, les raisons pour lesquelles il serait bien de se mettre à l'autopartage.
Et ben il y en a plein en fait, et c'est ça qui est chouette, et c'est pour ça qu'on s'y est intéressé. Alors déjà c'est flexible, chaque groupe décide des modalités selon lesquelles ils vont fonctionner pour le prêt de la voiture, pour partager les frais également, pour l'assurance, parce qu'il y a différents modèles. C'est vrai que ce qu'on vient d'écouter là, ça proposait l'association, et c'est vrai que ça a beaucoup d'avantages, mais il y a d'autres manières aussi de pouvoir s'assurer. Évidemment, c'est écologique, ça permet de, on appelle ça dans le jargon, de réduire le parc automobile, donc de limiter le nombre de voitures et de diminuer la quantité de gaz à effet de serre. On le sait, 95% des véhicules passent leur temps à l'arrêt. Donc en fait, la plupart du temps, on a besoin d'une voiture, mais on n'en a besoin que ponctuellement, et le reste du temps, on ne l'utilise pas. Et ça, c'est des ressources qu'on n'optimise pas et qui restent un petit peu en suspens. Et c'est pour ça que ça permet justement d'optimiser non seulement l'utilisation, mais aussi plus on l'utilise et plus on entretient le véhicule, et donc on entretient la durabilité. Il y a aussi un aspect économique, puisque là on partage les coûts d'une voiture, et on sait aujourd'hui le coût moyen par mois pour un Français, c'est quasiment 500 euros.
Ah oui.
Donc c'est énorme.
Et puis comme... après il y a le coût à l'achat aussi.
Enfin, mais exactement.
C'est quand même très cher une voiture, faut bien le dire.
Tout à fait. Et donc là ça ne cesse d'augmenter. On cherche à faire des économies comme on peut. Des fois c'est très difficile. On est obligé de prendre une voiture pour le travail parce qu'on travaille en différé ou autre. Enfin, on est tous et toutes différentes. Et ce modèle-là permet vraiment d'optimiser et d'économiser. Sur ses dépenses mensuelles. Et puis évidemment, il y a plein d'autres côtés. C'est inclusif puisque ça permet d'aller chercher des personnes dans des territoires qui sont pas forcément ciblés par une mobilité durable, par les transports en commun, ou des jeunes par exemple qui viennent d'avoir le permis mais qui n'ont pas les moyens d'avoir une voiture. Toutes ces personnes-là, ou des personnes qui ont besoin de faire des économies, ou des familles qui utiliseraient la voiture que pour le week-end, que pour les vacances scolaires par exemple, et qui ne voient pas l'intérêt d'avoir une voiture pour tous les jours. Ça, c'est une super solution pour elles.
Donc c'est pas seulement une c'est pas seulement un truc de citadin, hein, l'autopartage.
Mais non, pas du tout. Ça permet vraiment de s'adapter à chacun et à chacune. C'est vrai qu'à Brest, par exemple, c'est plus facile, de se déplacer avec les transports en commun. Mais dès lors qu'on sort de la métropole, qu'on veut voir sa famille, ses amis, qu'on va aller en bord de mer, et ben là, on se retrouve face à des difficultés parce que des fois, par exemple, le car, il passe que toutes les 3 heures et qu'on n'a pas la correspondance pour le prochain. Par exemple, pour venir ici, moi, j'ai dû prendre une voiture d'autopartage parce que j'ai regardé les cars et j'ai vu qu'il n'y en avait pas pour midi. Donc, c'est tout ce réseau là qui est parfois compliqué quand on travaille en différé, où effectivement on a un besoin de mobilité. Et c'est pour ça qu'à T-Mobs on cherche avant tout à réduire l'autosolisme, donc le fait d'utiliser sa voiture seule. Mais pour ça, il faut qu'on favorise d'autres solutions et qu'elles soient adaptées au plus de monde possible. Et de là est venu l'autopartage entre particuliers.
Mais voilà, l'autopartage, alors c'est, ça a plein d'avantages, on est d'accord, mais il y a aussi des freins, enfin des difficultés. On en a un petit peu entendu là, dans cet échange de paroles sur la question de l'assurance, par exemple. Enfin, quelles sont les difficultés auxquelles on peut faire face et puis pour lesquelles on aura besoin de T-Bobs?
Alors, il y en a un, évidemment, qu'on vient d'entendre tout à l'heure avec la fresque, c'est l'assurance. L'assurance, aujourd'hui, on n'a pas de solution assurantielle adapté à l'autopartage entre particuliers. Sauf une, il y a une solution qui est développée avec Mobicop, qui est donc notre partenaire pour développer l'autopartage. Eux, ils ont créé avec la Massif un produit assurantiel vraiment spécifique pour l'autopartage entre particuliers. Mais hormis ça, c'est vraiment difficile. Et pourquoi c'est autant difficile ? Eh bien parce que quand on prête sa voiture, eh bien souvent... on ne regarde pas forcément les clauses dans son assurance. Il y a plusieurs éléments à vérifier, notamment la clause près du volant. En général, c'est marqué, la moitié des assurances le mettent, mais c'est possible que ça ne le soit pas. Donc ce qu'on préconise toujours au début, c'est d'appeler son assurance pour vérifier s'il y a la possibilité de prêter le volant, la possibilité d'avoir un conducteur ou une conductrice secondaire, et combien de conducteurs secondaires on peut avoir. On peut en avoir 3, 4, il y en a qui peuvent en avoir 6, en fait ça dépend. Ah oui. Donc c'est un petit peu la roulette russe. Et puis la couverture aussi en cas de sinistre par un conducteur non déclaré, bah, ça peut comporter de nombreux risques. Parce que effectivement, l'avantage de l'autopartage, c'est qu'on peut prêter le volant à un ami, à la famille, et ça peut arriver qu'on a envie d'aider une personne qui ait besoin juste d'un trajet, en fait. Et là, si on n'a pas annoncé à son assureur qu'on avait prêté le volant à cette personne et qu'il y a un sinistre, bah, malheureusement, c'est au propriétaire de subir le malus et qui va sûrement le payer pendant plusieurs années sur son rapport bonus-malus. Donc voilà, là-dessus, c'est vraiment tout un schéma assez complexe et chaque assurance a ses avantages et ses inconvénients.
L'assurance que vous avez réussi à, enfin que Mobicop a réussi à fabriquer, c'est plus cher, enfin
c'est un petit peu plus cher, mais quand on regarde avec les risques que ça comporte de ne pas en avoir une, avec par exemple le malus qui s'ajoute, c'est vraiment avantageux. Le gros avantage, c'est que ça va assurer les trajets et non les personnes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que peu importe le nombre de conducteurs qui vont être au volant.
Ah oui. Ça peut avoir un nombre illimité de conducteurs.
En gros, oui. Après, en pratique, on n'a pas des centaines de personnes. Mais voilà, si par exemple, on est 4 à prêter cette voiture et que là, il y a une 5e qui va emprunter la voiture une fois dans l'année, on sait qu'elle sera assurée parce que c'est le trajet qui est assuré.
Ah oui, non négligeable. Mmh. Alors, ça, c'était l'aspect peut-être le plus technique, l'assurance. Mais après, il y a d'autres aspects, alors, peut-être plus humains, enfin, qui constituent des freins ou des problèmes en cas d'autopartage. Lesquels ?
Oui, eh bien, il y a d'autres petits enjeux qui peuvent se poser, et c'est pour ça que nous aussi on est là pour les accompagner. La disponibilité du véhicule, où est-ce qu'il est, quand notre amie elle a déposé la voiture, où est-ce qu'on sait la récupérer, et ben c'est de dire ok, il faut prendre un temps ensemble au départ pour se dire est-ce qu'on communique avec WhatsApp, avec un autre groupe, et qu'à chaque fin de trajet on précise avec une localisation où est la voiture, ou est-ce qu'on met une place de parking dédiée. Ça aussi, ah oui, c'est un enjeu. Mmh. Et par exemple, nous à T-Mobs, on est en dialogue avec la ville de Brest pour essayer de voir s'il y aurait potentiellement des places qui pourraient être réservées. Actuellement, il y a des places réservées pour l'autopartage pour les partageurs, mais c'est les seules et c'est pas forcément évident. Donc voilà, ça en changement, mais ça serait une solution qui permettrait de faciliter cette pratique. On peut aussi avoir de l'appréhension de prêter en fait son véhicule à quelqu'un quand on se lance là-dedans.
Bah oui, c'est son véhicule à soi. Oui,
c'est ça,
c'est sûr.
Donc c'est de là encore avec T-Mobs de faire cet accompagnement, parce qu'on préconise de faire plusieurs rencontres avant de se lancer pour vraiment mettre à plat nos peurs, nos conditions. Par exemple, moi j'en ai besoin tous les week-ends parce que je veux voir ma famille le dimanche, ou moi j'en ai besoin à tel moment. Très bien, comment on fait ? Il y a des groupes qui vont fonctionner avec Google Calendrier, il y a des gens qui vont fonctionner au papier, qui vont se rencontrer une fois par mois pour faire l'état des lieux. Et puis, je dirais que le dernier point, le dernier frein, c'est qu'actuellement, l'autopartage entre particuliers, en tout cas que nous, on accompagne, n'est pas possible avec l'utilisation pour aller au travail, pour utilisation professionnelle.
Ah oui, mais là, c'est embêtant. Enfin, c'est un sacré frein, on va dire. Ouais.
En fait, on peut aller au travail avec, mais si on utilise la voiture pour faire des déplacements professionnels.
Ah oui.
Pardon. Oui, effectivement. Mm-hmm. Là, c'est problématique parce que c'est pas le même type d'assurance et on n'entre pas là-dedans pour le moment.
Oui, oui, mais ça se comprend. Oui, voilà. Enfin, une infirmière qui fait sa tournée.
Exactement.
Ou... Oui, d'accord.
C'est ça. Oui.
Mais sinon, pour aller à son, enfin, pour un trajet domicile-travail.
Oui, c'est possible.
Ok. Bon.
Le seul désavantage, c'est qu'en faisant ce déplacement-là, on va laisser la voiture en immobilité généralement toute la journée. Et donc, s'il y a un autre utilisateur, utilisatrice qui veut l'emprunter, voilà, c'est un peu d'organisation avec les autres personnes. Et c'est pour ça qu'il faut s'en parler avant et effectivement évaluer les besoins de chacun, chacune pour s'assurer que ça se passe bien et qu'on ne soit pas stressé à se dire « j'en ai besoin, où est la voiture ? Elle n'est pas dispo ». Voilà, ça, c'est le pire qui puisse arriver, entre autres.
Oui, oui, tout à fait. Oui, bah, oui, parce que même si elle est dispo, mais qu'elle est à 5 km,
ben, c'est ça.
Encore 5, on peut y aller avec. Vélo à la limite, mais
oui, s'il pleut loin. En hiver, on n'a pas envie.
Oui, on n'a pas envie, c'est clair. Et oui, d'autres retours d'expérience que vous auriez eu, positifs ou négatifs, d'ailleurs, enfin, les partageurs, par exemple, ils ont combien de voitures, combien d'adhérents, enfin, quel est le bon chiffre, par exemple,
De personnes qui font l'autopartage. En général, 4-5 personnes pour une voiture, c'est un bon chiffre. Parce que ça permet de bien se coordonner, de bien se connaître, de pouvoir faire le partage des frais comme il faut. Après, une fois que ça s'est établi, ça se fait assez automatiquement. Et c'est ce qu'on remarque aussi dans les usages à la longue, c'est entre 3 et 4 personnes.
Oui. Et après, le partage des frais, justement, entretien, réparation, je ne sais pas, comment ça s'organise ? Est-ce que c'est au prorata de l'usage ? Comment ?
Il y a différentes manières. En général, il y en a deux. Soit on décide de faire, là je vais utiliser les gros mots, les provisions partagées ou le barème kilométrique. Alors, le provision partagé, c'est de calculer tous les coûts liés à la voiture, l'assurance, la décote, la carte grise, et de diviser à part égale avec le nombre d'usagers et usagères. Ça demande quand même que les personnes utilisent assez régulièrement la voiture pour que ce soit rentable.
Ça.
Sinon, on a le barème kilométrique, et ça, c'est le même départ, c'est-à-dire qu'on va calculer tous les coûts liés à la voiture, plus au prorata des kilomètres effectués, et donc on va atterrir à un chiffre par kilomètre, par exemple 34 centimes du kilomètre, et qui va comprendre à la fois l'entretien du véhicule, la carte grise, la décote, etc., et le prix du carburant.
Et donc ça aussi, bien sûr,
voilà. Ouais. Et donc ça, c'est assez avantageux pour les personnes qui utilisent la voiture de manière ponctuelle. Et donc moi, j'ai un groupe, par exemple, qu'on a avec T-Mobs. Ils sont 7 dans le groupe. En moyenne, il y a 3 personnes par voyage. Et eux, ils font les deux en même temps. C'est-à-dire qu'ils ont des personnes dans le groupe qui utilisent souvent la voiture, et il y a des personnes qui utilisent pas très souvent la voiture, mais qui en ont quand même besoin. Et donc pour ceux qui utilisent régulièrement, il y aura la provision partagée. Donc en gros, c'est un abonnement au mois. On a notre abonnement Netflix, on a notre abonnement autopartage, et on va avoir après juste à payer le carburant au kilomètre.
Donc là, c'est pour les gros utilisateurs, entre guillemets.
C'est ça.
Ça revient à combien, là, pour...
J'ai pas le chiffre en particulier, mais c'est bien moins que d'avoir une voiture solo.
Toi-même.
Ça,
ah ouais.
C'est évident. Okay. Et puis, pour les personnes qui utiliseraient une fois par mois, eh ben là, on a juste à payer ce que je disais tout à l'heure, du coup, le barème kilométrique. Et on va payer, par exemple, 34 centimes ou 45 centimes le kilomètre.
Oui, mais alors, ça, quand on fait au kilomètre, ça suppose de savoir exactement à l'avant. Enfin, pas exactement, mais enfin, assez précisément à l'avance, quel va être l'usage de la voiture autopartagée
Mais pas forcément, et c'est pour ça que nous, on a décidé de travailler avec Mobicop, parce qu'ils ont un super outil qui s'appelle Coloc Auto.
Alors ouais, on rentre dans le concret là, comment on fait?
Exactement, parce que oui, en avance, de dire combien ça coûte, pas évident. Je suis pas hyper forte en maths, donc moi non plus de le faire en avance, voilà.
On sait pas quelles seront nos envies de balade à l'avance et quel temps il va faire.
Et si on a envie de faire un détour pour prendre un café.
Et aussi.
Donc c'est normal, et donc il y a pour ça qu'il y a un outil qui a été développé par Mobicop qui s'appelle Coloc Auto, et c'est un outil numérique. En gros, c'est une plateforme où on s'inscrit, nous et notre groupe d'autopartage, et qui va nous faire le partage des frais, comme j'ai pu l'expliquer là avec les provisions partagées ou le barème kilométrique, et qui va nous dire en avance, bah voilà, si vous faites Paris-Brest, vous allez faire tant de kilomètres, et ça va vous rendre à tant si vous décidez de payer au kilomètre, ou si vous décidez de faire provisions partagées, ça va vous donner tant en montant. Et ça vous permet de voir en avance et de réserver également en avance votre trajet, si vous avez votre week-end qui est préparé depuis un petit moment, et de partager les frais sans avoir besoin de sortir la calculette.
Mmh. Mais quand on lance le groupe d'octopartage au début, on ne sait pas forcément quel va être son usage. Donc comment on fait dans ces cas-là?
Eh ben, on détermine ensemble, lors d'une rencontre, un petit peu c'est quoi les besoins de chacun, chacune. Peut-être qu'il y en a qui vont dire, moi je sais pas du tout,
ah oui,
mais je remarque que j'utilise en moyenne 3 fois par mois, ça dépend. Et en fait, peu importe le besoin ou peu importe l'usage, tant et autant qu'on arrive à avoir une méthode pour s'organiser en avance.
C'est-à-dire,
si on fonctionne avec un calendrier, en fait, peu importe que notre ami l'utilise 1 fois par mois ou 3 fois par mois, tant qu'on l'inscrit, généralement, les groupes décident ensemble du nombre de jours en avance où ils vont réserver le créneau. Par exemple, la veille au soir, mais il y en a d'autres qui disent non, pour moi c'est un peu trop short, je préfère 24 heures ou 48 heures maximum, et de dire, bah voilà, et moi je réserve le créneau jeudi entre 14h et 16h, et à partir de là, on a accepté le délai pour pouvoir le réserver, et puis de là, tout est bon. Après, il y a
ce qui n'interdit pas de réserver à l'avance, enfin, si on sait qu'on a un mariage, je veux dire quoi, 3 mois à l'avance. Quoi.
Exactement.
Ouais. Disons que ça sera minimum de 3 jours, quoi.
Okay, exactement, ça peut, oui, c'est un bon exemple, mm-hmm. Tout à fait.
Et, oui.
Et puis j'allais dire que pour certains groupes, les besoins peuvent changer au fur et à mesure, et c'est à eux de se dire, est-ce qu'on se refait une rencontre pour réadapter, parce que ça ne fonctionne pas. Et par exemple, s'il y a un conflit d'usage,
oui,
deux personnes qui veulent le même jour, et ben, la première rencontre que nous on fait, Teamobs, avec les groupes, c'est de dire, est-ce qu'on établit une priorité des déplacements. Par exemple, si notre amie, elle y va pour s'acheter des courses, mais notre voisin, il y va parce qu'il a un rendez-vous médical, peut-être que c'est le rendez-vous médical qui est plus important.
Et oui, voilà. Donc c'est ça, en fait, vous préconisez, j'imagine, qu'il y ait un contrat bien précis, c'est ça, entre les partenaires. Quoi.
Exactement.
Enfin, ouais.
Et tout l'importance de ce projet qu'on mène avec Mobicop, c'est de pouvoir contractualiser, ou en tout cas donner un cadre à ces personnes qui veulent se lancer, déjà pour les rassurer, mais aussi pour savoir dans quoi elles se lancent, et que de faire un panorama de tous les enjeux possibles, les petites frictions, et tout ce à quoi on doit penser pour se lancer sereinement, pour que vraiment l'objectif ce soit quand même de faciliter nos déplacements, et pas juste de se creuser les méninges à chaque fois en se disant combien ça paye, est-ce que je vais réussir à avoir la voiture, etc.
Oui, pour que ça marche, il faut que ça soit fluide, évident.
Exactement.
Mobicop, un petit mot de ce partenaire, donc Café Colocoto, certes, mais qu'est-ce qu'ils font en général ?
Et ben, c'est une coopérative qui propose de faire un petit peu comme d'autres plateformes peuvent le faire, de type Blablacar, du covoiturage. Mais l'avantage, c'est qu'ils fonctionnent sans commission sur les transactions. Ça veut dire que l'intégralité des revenus revient aux utilisateurs et utilisatrices. Et comme c'est une coopérative, voilà, chacun a sa voix, il y a un fonctionnement qui est beaucoup plus transparent, et pour nous c'était vraiment un choix logique de s'associer avec eux, d'autant plus qu'ils travaillent sur la question d'autopartage et qu'ils sont vraiment pionniers sur cette question.
Oui, ils ne sont pas seulement sur le covoiturage alors, en fait.
Non, exactement.
Ouais. Et comment ils se rémunèrent s'ils ne prennent pas de commission?
Eh ben, ils ont un autre fonctionnement, je ne l'ai plus en tête, j'en avais discuté, mais oui, effectivement, ils ont une autre manière de fonctionner. Ils fonctionnent par subvention, je sais qu'ils ont l'ADEME qui les aide là, pendant un petit moment. Voilà, ils ont vraiment un système économique assez complexe sur plusieurs niveaux.
Et là, le programme auquel Teamobs participe pour promouvoir l'autopartage, comment ça s'appelle et comment ça va se traduire concrètement?
Eh ben, ça se traduit par des ateliers qu'on mène. On en a 2 qui vont arriver prochainement, un à la PAM le 3 février et un au Willy Chéri le 6 mars. Alors malheureusement, ils sont à Brest,
oui.
Mais on espère pouvoir très rapidement développer à d'autres communes plus rurales, notamment. Mais comment ça fonctionne? Toutes les personnes qui sont intéressées peuvent aller sur notre site Teamobs et remplir un formulaire. Le formulaire sera bientôt disponible puisque notre site est encore en construction. Enfin, il est bientôt à la fin. Et de là, on va pouvoir les recontacter pour voir si déjà les besoins correspondent à ce qu'on propose avec l'autopartage, et si oui, à ce moment-là, les inviter à nos ateliers. C'est des ateliers pour sensibiliser à la question, pouvoir faire un question-réponse avec leurs besoins, et puis ensuite, celles et ceux qui sont intéressés, créer un groupe ensemble. Et donc, dès lors qu'il y a des personnes qui veulent se lancer après que ça a confirmé leur choix, les ateliers, et bien à ce moment-là, on fait un accompagnement plus personnalisé avec ces personnes pour mettre en réseau. Si par exemple, la personne intéressée mais elle n'a pas d'autres personnes avec qui se mettre en groupe, et ben nous on fait on a tout un petit tableau où on répertorie toutes les personnes intéressées, de dire ben voilà, vous avez telle personne à 50 mètres qui souhaite également en faire. Et de cette mise en réseau là, on arrive à construire ces groupes, et de par ces groupes on arrive à accompagner en faisant ce qu'on disait, la première rencontre d'établissement de tous les petites questions et de ce qu'on a besoin pour se lancer.
Donc les réunions d'information comme ça, il y en aura régulièrement, enfin vous en proposerez régulièrement pendant 3 ans en fait.
Oui, exactement.
Et donc on vient une fois, et puis si on est intéressé, là on constitue son groupe.
C'est ça, okay. Tout à fait, c'est un premier jet.
Ok, eh ben, merci beaucoup, on va suivre ça avec attention, Kali Abraham et Team Mobs.
Merci à vous.
À bientôt.
Merci, à bientôt.